l'univers. À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
E-U-C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
Planètes, galaxies, astres, lointains, infinis. Quelques mots qui suffisent à nous faire perdre l'équilibre et à nous sentir tout petits d'ici. Épisode 2.
Thierry Maciazek.
Je suis du Centre national du spatial à Toulouse et je suis en gros un peu, on va dire, prêté aux lames pour finalement travailler sur Euclide. En tant que chef de projet du consortium NISP.
Éric Prieto.
Moi, donc, je suis Éric Prieto, je suis un ingénieur opticien formé à Marseille, à l'école de physique de Marseille, qui est maintenant l'école centrale. J'ai commencé à travailler sur ces thématiques scientifiques en 2000, avec une collaboration franco-américaine autour d'un projet qui s'appelait SNAP, dont le leader était Saul Perlmutter, qui est devenu prix Nobel depuis. Je suis rentré d'abord comme responsable de la partie du LAM, qui était tournée autour principalement de la structure de l'instrument. En 2011, il y a eu un changement des périmètres de responsabilité au sein du consortium, et donc la France est devenue responsable de l'instrument, et moi je suis rentré en tant qu'ingénieur système de l'instrument. Donc mon domaine d'action n'est pas le laboratoire, mais le niveau européen. L'AM, on a la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, donc de l'instrument. Le CNES a la maîtrise d'ouvrage, et nous on a la maîtrise d'œuvre, donc on a le chef de projet dans nos locaux. Au lieu du consortium et au lieu du monde, on est responsable de l'instrument, donc c'est quand même à très haute responsabilité. Et on a la responsabilité système de l'instrument, donc par mon action. Et après on a des responsabilités au niveau intégration et vérification de l'instrument, donc ce qui est en train d'être fait actuellement dans nos locaux. Et en tant que chose physique que l'on livre, on a livré la structure de l'instrument, on a livré des composants optiques par le biais des grismes de l'instrument, on a livré le plan focal. Et on livre aussi tous les aspects thermiques, contrôle thermique de l'instrument, c'est-à-dire les sondes thermiques, les chaufferettes et les isolants thermiques. Le projet, c'est une vingtaine de personnes dans le laboratoire depuis 4-5 ans.
Euclide, c'est un consortium global, donc un consortium qui en gros inclut donc l'instrument VIS et l'instrument NISP. Et dans ce consortium, il y a aujourd'hui à peu près 1600 personnes. C'est un des plus gros consortiums que je connaisse. Et encore, il n'y a pas tout le monde. Dans le consortium Euclide, aujourd'hui, dans ces 1000 personnes, il y a les scientifiques et les ingénieurs des laboratoires. Mais par exemple, il n'y a pas toute la partie industrielle. Ce qu'il faut voir, c'est que quand les gens font réaliser un produit, il y a des gens dans le consortium qui gèrent dans les labos. Mais après, il y a des industriels qui réalisent. Donc, le nombre de personnes qui est lié à Euclide est très 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 élevé. Sur le NISP, il y a donc la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Norvège, Danemark et les États-Unis.
Au départ, le LAM a été construit dans la volonté de pouvoir de fournir une plateforme d'intégration d'instruments et de tests d'instruments. Et donc la spécificité, c'est qu'on a des moyens. C'est-à-dire, pareil, il y a eu de l'argent public qui a été mis dans le laboratoire pour développer des moyens qui reviennent derrière par le biais des projets qui viennent au LAM pour être intégrés et testés et donc fabriqués aussi, et par le biais de prestations industrielles que l'on fait aussi dans nos laboratoires. C'est-à-dire qu'on aide les industriels sur certaines choses. Des tests de vibration, par exemple, des tests de vide thermique, froid, des choses comme ça. Dans ce genre de projet, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a peu de choses contractuelles entre les intervenants. Il n'y a pas un contrat d'un laboratoire qui doit nous livrer quelque chose vis-à-vis de nous. Donc c'est les agences nationales qui ont décidé de faire l'instrument et qui ont chacune pris leurs responsabilités. Après, l'entente, elle se fait. On va pas dire vous êtes en retard d'un mois, vous allez nous payer tant. Ça marche pas. Donc c'est une façon d'organiser le travail qui est sur l'intérêt scientifique bien connu de tout le monde.
Et voilà, on gère l'ensemble des intervenants dans les différents labos pour que on soit prêt en temps et en heure pour tester l'instrument.
Mon rôle, c'était d'écrire les spécifications avec les gens qui allaient construire. Donc, au moins qu'il y ait un accord sur ce qu'ils allaient construire. L'ESA va livrer au télescope, à l'industrie qui gère le télescope. Airbus Toulouse va intégrer les instruments avec le télescope, faire une batterie de test pour vérifier que leurs spécifications sont remplies. Ils vont envoyer ça à Thales Italie, qui va faire une intégration dans le satellite, faire une batterie de test pour vérifier qu'ils sont en spec, et tout ça va partir à Kourou. Voilà, la mesure que l'on fait réellement avec l'instrument Euclide ou NISP, c'est une cartographie de l'univers. On est un peu les Magellan de l'univers. Thank you. Il y a une partie qui a déjà été faite, plus proche, mais là on va aller beaucoup plus loin.
Il y a à peu près 1 milliard de galaxies qui va être mesurées, ce qui est énorme par rapport à ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant. 1 milliard de galaxies, c'est quand même assez gigantesque.
C'est un instrument, c'est il est là pour observer quelque chose. Il est constitué de... En fait, il a deux gros modes d'observation. Une observation dite photométrique, c'est-à-dire qu'il fait des images et il regarde le flux de chaque galaxie dans différents filtres. Donc il a 3 filtres infrarouges et il regarde le flux qui arrive pour de ces galaxies. Et de là, il en déduit un certain nombre de choses sur les galaxies. Ça, c'est le premier mode. Donc, il y a une roue qui tient ces 3 filtres, et la roue tourne donc pour sélectionner un filtre par rapport à l'autre. Il a un deuxième mode, qui est le mode spectroscopique, où en fait, il va disperser la lumière infrarouge le long de lignes. Quand on regarde un spectre, un spectre est assez plat, et il y a des gros pics, donc à certaines longueurs d'onde, à certaines couleurs, qui dépendent de l'émission de certains gaz typiques des galaxies. Donc le spectro va mesurer ces lignes d'émission pour chaque galaxie pour en déduire en fait ce qu'on appelle le redshift. Et le redshift dépend de la distance de l'objet. Donc en fait, avec cet instrument, on va faire une sorte de cartographie de l'univers. On va avoir les 3 dimensions, donc les 2 angles de projection dans le ciel, plus la distance, et des informations de couleur et donc de composition des galaxies. Donc on va faire une cartographie de l'univers pour en déduire où est, comment a évolué l'univers. Parler de milliards de galaxies, il faut savoir que le nombre de détecteurs infrarouges qu'on met sur l'instrument est très très grand, et donc les données qui sont fournies par l'instrument sont, il y a beaucoup de données, et on est obligé d'en faire un premier traitement en vol parce que les antennes n'ont pas la bande passante suffisante pour tout rapatrier, ce qui impose donc une forte capacité de calcul du DPU. C'est l'ordinateur qui justement lit les détecteurs et fait le processing dans des données. Il va pouvoir transmettre ces données simplement 2 heures par jour, je crois, quelque chose comme ça.
On a 4 heures de visibilité par jour, tous les jours. Pendant les 4 heures, c'est là où on pourra voir en temps réel le comportement du satellite, des instruments en vol. Et pendant ces 4 heures, il envoie les données du jour d'avant au niveau des stations sol. Le traitement de données sol est quelque chose aussi d'extrêmement hors d'orme sur Euclide. C'est la première fois qu'il va y avoir un type de traitement aussi important, incluant un aussi grand nombre de données pour une activité spatiale.
L'intérêt de ma position en tant qu'ingénieur système, j'ai trouvé ça au début très, enfin, que ça fait longtemps que je travaille dans ce genre de choses, qui est l'interface entre la science et le hard, et le matériel. Et cette interface-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, le scientifique, il faut lui faire exprimer les choses de telle façon qu'un ingénieur le comprenne. Je vais utiliser un mot fort, mais la confrontation qu'il y a entre l'ingénieur et le scientifique, elle se fait entre moi, ingénieur système, et ce qu'on appelle l'instrument scientifique, c'est le scientifique en interface avec moi. Et la confrontation, elle est extrêmement enrichissante. D'arriver à écrire quelque chose qui soit utilisable par les ingénieurs derrière. Le scientifique dit « mais moi je veux faire ça ». Et moi je lui dis « mais ça veut, pour moi ça veut rien dire ». Et puis de toute façon tu ne peux pas pouvoir faire ça, il va falloir faire autrement. Et exprime-moi réellement ce que tu veux faire. Donc il y a un aspect reformulation du besoin et aller pousser l'expression du besoin jusqu'au bout. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça peut être très animé par moment. J'ai fait beaucoup de bruit dans mon bureau parce qu'à un moment, la discussion animée, comme un match de rugby entre gentlemen.
Les scientifiques en voulant toujours plus, c'est naturel. Plus ils en auront, plus ils voulent toujours le plus. Et bon, il y a des fois, il faut mettre des limites.
Il faut les forcer à clarifier leurs propos. Et en fait, on n'aime jamais clarifier son propos. Parce qu'on pense que c'est évident. Oui, c'est évident ce que je dis. Et en fait, c'est une certaine souffrance de clarifier son propos, parce qu'on est obligé de faire des choix, parce qu'on est obligé d'enlever des zones de flou qui étaient confortables. En fait, il faut exprimer le besoin de telle façon qu'il soit mesurable, pour être vérifiable. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, de challenging. Et on apprend beaucoup. J'ai expliqué ce que nous, on faisait la cartographie de l'univers, donc le NISP. Le vide, eux, le principe de la mesure est le suivant. C'est qu'on dit que les galaxies, quand on garde un degré sur un degré, on va prendre du ciel, statistiquement, elles sont rondes. Et donc, ce que va faire le vide, lui, c'est qu'il va regarder si sur un angle donné, il y a une direction privilégiée, une forme privilégiée des galaxies. Donc, grosso modo, savoir si elles sont toutes un peu ellipses dans une direction. Donc, la forme de la qualité d'image doit être extrêmement bonne et connue, donc stable. Ce qui se passe, c'est que donc, cette forme moyenne sur un petit angle, elle est donnée par la quantité de matière que la lumière va traverser. En fait, la matière, qu'elle soit matière visible ou matière sombre, ou toute matière, en fait, déforme l'espace autour d'elle. Et en fait, la lumière qui passe par cette déformation est affectée de telle façon que l'image des objets est déformée. Par l'analyse de la forme des galaxies qui est derrière ces matières, on arrive à mesurer combien de matière il y a. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la galaxie réellement. Ce qui nous intéresse, c'est comment est déformée son image par la matière qui entre. Donc, on va mesurer la matière qu'il y a entre la galaxie et nous. Donc, une fois qu'on aura pesé toute la matière, on sait que ce qui restera, c'est l'énergie. Et de la même façon, la cartographie de l'univers va permettre de savoir comment il grandit et de là, de déduire quel est le montant total de matière et d'énergie qu'il y a dans l'univers. Nous, laboratoire, on dit nos savoirs, le cœur de savoir, c'est le tissu industriel qu'on est capable de créer autour de nous. On n'est jamais seul. On se base sur le savoir-faire d'industriel autour de nous. Et c'est en le faisant croître par des contrats style NISP que eux peuvent acquérir de nouveaux marchés, mais que nous, on se renforce aussi. Donc en fait, c'est du donnant-donnant, c'est de la croissance commune. Et un retour sociétal qui est assez important. On n'est pas fort seul, on est fort avec les gens, les industries qui sont autour de nous. Et eux, c'est pareil. Par contre, je pense que votre travail est important, justement, pour ouvrir vers la société ce qu'on fait. Et venir voir ce qu'on fait, c'est important, c'est intéressant.
It was late at night.
Vous nous souhaitez bonne chance parce que l'année prochaine va être une année cruciale pour le NISF. Là, c'est l'année prochaine qu'on va tester en finale l'instrument complet. Il sera complet de janvier à septembre au LAM dans Erios en trois shifts pendant de très nombreux mois. Donc ça va être une année très 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 dure, mais certainement passionnante.
À suivre.
À suivre.
Alors, la structure, le LAM a une histoire assez spéciale, assez particulière, on va dire, vis-à-vis de ce matériau. Parce qu'en fait, son utilisation pour les structures spatiales a été développée par Airbus Toulouse, qui s'appelait Matra à l'époque. Ce matériau est très intéressant pour des questions de très grande rigidité, de conduction thermique, et du fait qu'il est totalement amorphe. C'est-à-dire que c'est un matériau qui ne change pas dans le temps, qui n'a pas de direction privilégiée, qui est donc très très bon pour une structure. Donc en fait, il y a 15 ans maintenant, le laboratoire a travaillé avec Airbus, Matra à l'époque, pour développer cette caméra, donc qui était le premier instrument scientifique spatial en carbure de silicium.
Euclide, le métier à tisser l'univers, donne la parole au personnel du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du CNES, impliqués dans la réalisation du spectrophotomètre infrarouge Grand Champ, également appelé NISP, l'un des deux instruments embarqués de la mission spatiale Euclide de l'Agence spatiale européenne. Les chercheurs et ingénieurs que vous entendez ici travaillent principalement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au Centre de physique des particules de Marseille. Cette série d'émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d'Aix-Marseille Université, du CNES et du LABEX au CEVU.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste. Essayer de comprendre ce dans quoi on est, ça permet de... Ça a des applications quand même très concrètes, déjà sur notre connaissance de l'univers et sur notre connaissance de notre place. Einstein, le GPS ne marcherait pas sans la relativité générale d'Einstein. La science, même si on regarde des choses très lointaines, ça a des applications très concrètes.
Euclide.
On est tout petit.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers. Donc quelque chose qui nous dépasse complètement.
Radio-grenouille.com.